Le journal Xavier Demagny, bonjour.
Bonjour. Progression éclair en Afghanistan, un pas de plus vers la prise de pouvoir des talibans. Aux portes de Kaboul, les islamistes auraient même pénétré dans la capitale selon les autorités afghanes. Haïti à la recherche des survivants, plus de 300 morts et des milliers de blessés. C'est une course contre la montre qui se joue désormais pour retrouver des victimes dans les décombres après le séisme qui a touché l'île hier. À la une aussi ce midi, la situation sanitaire en Martinique et l'aide des soignants réservistes sur place venus de métropole. Reportage de notre envoyé spécial. Le classement de Shanghai, les universités françaises progressent un peu. Une stèle en hommage à Simone Veil, dégradée pour la quatrième fois à Perros-Guirec. Le retour des pèlerins à Lourdes en ce week-end du 15 août et un sport méconnu, méprisé, né en Suède, le swimrun entre terre et mer. La météo, chaleur et soleil partout en France, des orages dans le nord-est.
France Inter.
Aux portes de Kaboul et aux portes du pouvoir, les talibans contrôlent désormais une très large partie de l'Afghanistan. Ils contrôlent depuis ce matin Jalalabad, seule grande ville de province encore contrôlée par le gouvernement jusqu'à présent. Bonjour Bertrand Galichet.
Bonjour à tous.
Depuis ce matin, signaux contradictoires, plusieurs témoignages, mais aussi les autorités afghanes indiquent que les insurgés ont pénétré dans la capitale.
Oui, selon le ministère afghan de l'Intérieur, les talibans entrent de tous côtés dans Kaboul, ce que constatent des habitants. Un porte-parole des insurgés assure pourtant que les combattants ont reçu l'ordre de ne pas pénétrer dans la ville, mais des réseaux islamistes infiltrent Kaboul depuis des années et il n'est pas étonnant que la capitale s'apprête à tomber comme un fruit mûr. Ceux qui veulent pourront partir, affirment les djihadistes, qui demandent aux femmes de se mettre dans des endroits sûrs, une injonction plutôt inquiétante. Les talibans promettent de ne pas se venger de l'actuelle administration, mais un vent de panique souffle sur Kaboul. Toutes les affiches représentant des femmes sont retirées des devantures des magasins. Ces derniers jours, beaucoup d'hommes ont commencé à se laisser pousser la barbe. La situation est également très tendue à l'aéroport où les étrangers, mais aussi des Afghans, tentent de trouver un vol pour fuir le pays.
Bertrand, cette arrivée semble prendre tout le monde de court. On ne s'attendait pas à une prise de Kaboul si rapide.
Alors, le processus était écrit, mais ni les États-Unis ni les autorités afghanes ne voulaient y croire. Ce matin encore, le ministère afghan de l'Intérieur a publié un communiqué demandant aux Afghans de ne pas s'inquiéter et annonçant un transfert pacifique du pouvoir vers un gouvernement de transition. En réalité, les autorités afghanes tentent de négocier sa reddition ou son exfiltration. Les talibans exigent toujours la démission du président Ashraf Ghani, lui-même paralysé par la situation. Hier encore, il appelait à une remobilisation de l'armée, comme si les militaires afghans avaient encore les moyens et surtout l'intention de se battre. Il continuait d'évoquer une solution politique et parlait de consultation avec des pays étrangers. En fait, la communauté internationale assiste en spectatrice à cet effondrement annoncé, mais veut afficher sa mobilisation.
Le pape exprime son inquiétude et prône le dialogue. Ce midi, le Parlement britannique est convoqué en urgence la semaine prochaine. La Russie plaide pour une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU en urgence et les États-Unis continuent effectivement d'évacuer leurs ressortissants et les civils afghans qui ont coopéré avec eux. Plusieurs milliers de personnes encore à faire sortir du pays. À lire sur franceinter.fr, 10 dates clés pour comprendre le retour au pouvoir des talibans en Afghanistan 20 ans après la chute de leur régime. Plus de 300 morts, près de 2000 blessés, de nombreux bâtiments détruits. Dernier bilan du séisme qui a touché l'île d'Haïti hier. Secousse de magnitude 7,2, épicentre à 160 km de la capitale, Port-au-Prince. 11 ans après le tremblement de terre dévastateur de 2010 qui avait fait là plus de 200 000 morts. Le bilan est donc moins dramatique pour l'instant, mais il faut agir vite pour le contenir, d'après Jean-Marie Théouda, géographe, enseignant à l'université Paris-Panthéon-Sorbonne et à l'université d'État d'Haïti.
Le plus important aujourd'hui, ce serait des engins de levage pour permettre de soulever les masses de béton sous lesquelles, malheureusement, il y a encore beaucoup de survivants. Et l'expérience a montré en 2010 que nous pouvions jusqu'à J plus 4 sauver des vies dans des conditions dramatiques. Donc, avant même de penser au système sanitaire, il faut penser au système d'acheminement des secours. Après, nous ne sommes pas dans une situation idéale pour faire face à ce défi. Après l'assassinat du président, après les multiples épisodes cycloniques, tout le système sanitaire est débordé.
Y a-t-il besoin d'une aide internationale? On sait que les États-Unis le proposent. Est-ce qu'il en faut le plus possible?
L'aide internationale est indispensable pour relever ce défi. Donc nous avons besoin non seulement de l'aide des États-Unis, mais de l'aide de tous les pays qui sont capables de porter secours dans l'urgence.
Jean-Marie Théouda, interrogé par Jules Dekis. Et pour soutenir Haïti, l'aide internationale s'organise. Assistance immédiate des États-Unis, promet le président américain Joe Biden. Du matériel déjà envoyé par la République dominicaine voisine, les Haïtiens peuvent compter sur l'aide de l'Espagne, assure le Premier ministre Pedro Sanchez. Mexique, Pérou, Argentine, Chili ou Venezuela ont aussi proposé leur aide. Là encore, ce sont de très mauvais souvenirs qui refont surface un an après l'explosion du port de Beyrouth. Au moins 28 personnes sont mortes au Liban, qui traverse sans doute la plus grave crise de son histoire. Dans l'explosion d'un réservoir de carburant, il y a aussi des dizaines de blessés. Le drame s'est produit dans le nord, l'une des régions les plus pauvres du pays. France Inter à Beyrouth avec Laure Stéphane.
Des corps carbonisés, méconnaissables, des familles qui vont d'hôpital en hôpital à la recherche d'un proche porté disparu. Le Liban est sous le choc après l'explosion cette nuit d'un réservoir de carburant dans le nord du pays. Les circonstances qui ont déclenché l'incendie sont encore floues. Ce que l'on sait, c'est que des dizaines d'hommes s'étaient rassemblés près de ce réservoir. Ils tentaient de prendre du carburant alors que les pénuries sont immenses dans le pays. Les victimes sont des civils et des soldats. Ce réservoir avait été saisi par l'armée. Elle a lancé hier des perquisitions pour récupérer les stocks d'essence faits notamment par des propriétaires de stations-service, des stocks qui sont l'une des raisons de la pénurie. Ceux qui les font entendent réaliser des profits juteux avec la flambée des prix attendus après la levée des subventions sur l'essence. L'explosion s'est aussi produite dans une région de trafic de denrées vers la Syrie, autre motif des pénuries. La situation est si catastrophique au Liban que le ministre de la Santé a demandé que des blessés soient soignés à l'étranger. Selon lui, les hôpitaux en crise depuis des mois n'ont plus la capacité de soigner le niveau de brûlure de certains patients. Beyrouth, Laure Stéphane, France Inter.
13h07 sur France Inter, 6 malades du coronavirus en réanimation sont arrivés à Paris ce matin en provenance de Fort-de-France. La Martinique où la situation sanitaire est extrêmement tendue, des taux d'incidence jamais observés auparavant et des capacités en soins critiques très limitées malgré l'aide de l'armée et des renforts venus de métropole depuis la mi-juillet. Faustine Canmel a rencontré deux soignants mobilisés via la réserve sanitaire du ministère de la Santé, Clément et Thibault qui rentrent aujourd'hui chez eux après 3 semaines. Aux côtés des soignants sur place.
Thibault, infirmier en médecine générale, est le premier à être arrivé à Fort-de-France mi-juillet et il a vu la vague monter inexorablement.
Quand je suis arrivé, je pense qu'il y avait 3 unités de médecine qui étaient dédiées au Covid, soit une moins de 50 lits. Et aujourd'hui, je crois que c'est presque 300. Tous les jours, un peu plus de lits, un peu plus de lits, un peu plus de lits.
Et des lits qui se remplissent vite, très vite, avec des malades toujours plus jeunes que Clément, infirmier aussi, accueillait en réanimation.
On tombe vraiment sur des patients qui ont entre 20 ans, 30 ans. Moi, j'ai 25 ans. Donc vraiment, j'ai soigné des gens qui avaient mon âge. Donc ça, c'est un peu plus difficile en termes de transfert, en termes de se dire que ça aurait pu nous arriver aussi.
Il a fallu encaisser les décès nombreux, les familles bouleversées. Mission particulièrement compliquée, il s'accorde à le dire. À l'heure de faire les valises, Thibault reconnaît de la frustration.
On se heurte quand même à des capacités hospitalières qui ne sont pas adaptées, mais comment pouvoir les adapter à l'avance? Et du coup, c'est assez frustrant et en même temps, on sait qu'on fait le maximum de ce qu'on est capable de faire et que c'est ça qui est important à la fin de la journée, c'est de se dire qu'on a malgré tout essayé de leur donner les meilleures chances possibles de pouvoir passer ce cap-là. Quoi.
Les deux infirmiers cèdent la place à de nouvelles équipes. Une 50aine de membres de la réserve sanitaire vont rester au CHU de Fort-de-France jusqu'à la fin du mois d'août.
Faustine Canmel, envoyée spéciale de France Inter en Martinique. Près de 215 000 manifestants hier contre le pass sanitaire, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Gros rassemblement en France, celui de Toulon dans le Var, 22 000 manifestants, près de 14 000 dans la capitale. Le préfet de police de Paris a d'ailleurs signalé à la justice plusieurs pancartes au slogan antisémite brandi dans les cortèges. À Perros-Guirec, dans les Côtes d'Armor, là c'est une stèle en hommage à Simone Veil qui a été dégradée. Rescapée de la Shoah, l'ancienne ministre a laissé son nom à la loi légalisant l'interruption volontaire de grossesse en 1975. Elle est aussi entrée au Panthéon en 2018. Delphine Evenou, c'est la 4e dégradation de ce monument en quelques jours à peine.
Oui, commise hier matin. De quelle nature? On ne le sait pas. Depuis 15 jours, cette stèle a été recouverte de croix gammées, d'insultes, d'une étoile de David et d'excréments. Inimaginable pour Hervé Léon, le maire de Perros-Guirec, très paisible station balnéaire bretonne.
cette stèle que nous avons installée en le 18 novembre 2017, suite à un vote unanime du conseil municipal le 3 novembre, n'a jamais subi quoi que ce soit. Et bien au contraire, elle est fleurie en permanence, ou par les habitants, ou par les gens de passage. Donc c'est totalement incompréhensible.
Y a-t-il un ou plusieurs auteurs? On ne le sait pas. Un appel à témoins a été lancé en milieu de semaine, renouvelé hier. Sur Twitter, Emmanuel Macron a réagi. Jamais nous ne tolérerons que s'installe l'antisémitisme. La France ne reculera pas. Ça ne suffit pas, d'autant plus dans le contexte nauséabond que l'on connaît, dit Marion Stasi. C'est le président de la LICRA, la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme.
Je suis en colère. En colère parce que l'indignation ne suffit pas. Ayons enfin le courage de dire à nos procureurs, de dire à nos magistrats, de dire à notre législateur qu'un délinquant raciste doit être traité avec la même sévérité qu'un délinquant ordinaire. Or, aujourd'hui, en France, ça n'est pas le cas.
Et à Perros-Guirec, la stèle en l'honneur de Simone Veil a été nettoyée et refleurie.
Delphine Evenoux, merci. Une rave partie en Dordogne, 1500 participants, des centaines de voitures arrivées cette nuit sur un terrain privé, loin des habitations au nord-ouest de Périgueux. Aucun incident signalé, pas d'intervention de la gendarmerie qui est mobilisée sur place. L'UNEF dénonce une nouvelle hausse du coût de la vie étudiante pour la rentrée 2021. À quelques semaines de cette rentrée universitaire, le syndicat souligne dans son enquête annuelle que le budget des étudiants a été très durement touché par les réformes du quinquennat Macron. Les universités françaises qui grimpent un peu plus dans le classement de Shanghai publié aujourd'hui. Il classe les 1000 meilleures facs du monde avec des critères parfois contestés, souvent jugés trop anglo-saxons, course au prix et au nombre de publications. Les États-Unis sont toujours largement en tête avec Harvard et Stanford, suivis par Cambridge au Royaume-Uni. La première université française est 13e, Paris-Saclay. Deux établissements font leur entrée au classement, l'INSA Toulouse et l'école de commerce de Montpellier, 30 établissements français au total dans ce classement. Lourdes a retrouvé ses pèlerins en ce week-end de l'Assomption. 9300 personnes à la messe au Flambeau hier, plus de 8000 fidèles pour la traditionnelle messe du 15 août ce matin, malgré le contexte sanitaire. Évidemment, c'est moins qu'en temps normal, mais c'est bien plus que l'année dernière, Flore Catala.
Oui, les pèlerins, les hospitaliers, les acteurs du tourisme, ils le disent tous, Lourdes renaît. Il y a du monde partout dans la ville, alors que ce soit dans les restaurants, les boutiques ou les lieux de culte. Ce matin, à 10h, la basilique Pie-X était noire de monde, avec des pèlerins français surtout, quelques pèlerins et touristes étrangers. Et puis, il y a le retour des malades aussi, privés de pèlerinage l'année dernière à cause du Covid. Cette fois, ils sont là, moins nombreux certes, mais au rendez-vous grâce aux mesures sanitaires mises en place. On le rappelle, ici, le masque est obligatoire partout dans la ville basse, c'est-à-dire autour des sanctuaires et de la grotte de Massabielle, la fameuse grotte des apparitions. Et puis, le pass sanitaire est aussi demandé aux pèlerins venus en groupe. Alors, même si Lourdes renaît, on voit d'un coup d'œil qu'il y a quand même un peu moins de monde. Il y a du passage, oui, mais pas une immense foule, comme en temps normal.
Flore Catala, France Bleu, Berne, Bigorre, au sanctuaire de Lourdes pour Inter, la fameuse grotte où, selon la tradition catholique, la Vierge Marie est apparue à Bernadette Soubirou. Elle est restée fermée au public qui, d'ordinaire, touche les parois ou embrasse la pierre. Suite et fin de la deuxième journée de Ligue 1 de foot ce dimanche. 7 matchs au programme, dont le déplacement de Lyon à Angers. Ça a commencé il y a quelques minutes. Marseille reçoit Bordeaux en clôture à 20h45. Enfin, voilà un sport dont vous n'avez sans doute jamais entendu parler, en tout cas beaucoup moins que le football, le swim run ou nage course en français, avec un même équipement pour les deux activités, des palmes pour les mains, des baskets qui vont dans l'eau et un parcours entre terre et mer, en l'occurrence d'île en île, dans l'archipel de Stockholm en Suède, où ce sport est né. Découverte avec Frédéric Faux.
Il y a une dizaine de kilomètres, un kilomètre de nage répartir sur 7 nages. Une île dont il faut faire le tour à pied et en revenir par là où on est venu. Puis l'archipel propose vraiment de bonnes conditions pour le faire.
Le swimrun est né en 2002 dans l'archipel de Stockholm, un ensemble de 30 000 îles qui offre un terrain de jeu idéal. C'est pour cette raison que l'on y vient de loin, et même parfois de France, comme Christian, pour pratiquer ce mélange intense de nage et de course. Avant d'être un sport de masse qui fait aujourd'hui l'objet de centaines de compétitions à travers l'Europe, le swimrun est parti d'un pari entre jeunes qui voulait relier les îles de Sandhamn et de Hutö sans prendre le bateau, soit une aventure de 75 km. Aujourd'hui, ce parcours reste celui de la Hötilhö, le championnat du monde de la discipline. Mais pas besoin d'en faire autant pour prendre du plaisir en swimrun, comme l'explique Friedrich, un instructeur.
On peut le faire à deux ou en solo, se retrouver sur des routes, sur des rochers, dans la forêt. Vous avez une combinaison et une bouée entre les jambes qui vous aide à flotter. Bien sûr, il y a une élite qui est très entraînée, très rapide, mais c'est vraiment un sport pour se retrouver en pleine nature. On peut le faire en marchant, en parlant, en nageant, c'est vraiment pour tout le monde.
La prochaine édition de la Hötilhö aura lieu le 6 septembre. Stockholm, Frédéric Faux, France Inter.
J'espère que vous êtes prêts à vous lancer pour le swimrun.
La météo avec Hello Business, la nouvelle offre bancaire dédiée aux indépendants par Hello Bank. Plus d'infos sur hellobankpro.fr. Hello Bank est l'offre 100% digitale de BNP Paribas.
La Drôme, l'Ardèche, les Alpes-Maritimes et de Haute-Provence, ainsi que le Var, toujours en alerte canicule. La vague de chaleur se poursuit dans le sud du pays. Jean-Michel Golinski.
Des températures qui restent encore élevées aujourd'hui sur les régions méditerranéennes, vers 35-38 en général, ponctuellement 40, avec toujours pour le moment les 5 départements maintenus en vigilance orange canicule. Dans le sud-ouest, entre l'Aquitaine et le Midi-Pyrénées, en raison du temps nébuleux, il va faire moins chaud qu'hier, un déficit de 7 à 9 degrés près de la Garonne et sur le Pays Basque. Sur le quart nord-ouest et le long de la Manche, les températures vont marquer un léger recul avec une vingtaine de degrés sur les plages, un vent de sud-ouest sensible et un ciel nuageux. Enfin, sur les autres régions, des conditions identiques à celles d'hier, mais avec un risque d'averses et d'orages, de l'Auvergne-Rhône-Alpes aux frontières suisses et allemandes, des orages plus costauds en soirée. Demain, les températures vont baisser partout, mettant ainsi un terme aux valeurs de 35-40 degrés dans le sud-est, où Mistral et Tramontane vont se lever. Ailleurs, le temps très variablement nuageux va donner des ondées sur une large moitié nord du pays et sur les Alpes.